j'ai besoin d'un job steady.
Travailler, c'est trop dur.
Je ne veux pas travailler.
Why don't you get a job? Et travailler, c'est trop dur. C'est un peu le thème de la salle de nouvelles ici. Mathieu Locom.
Pourquoi?
Hey Mathieu, c'est pas mal à l'honneur cette semaine.
Parler
de PME. Hier, j'avais la chance de jaser avec la directrice générale de la Chambre de commerce dans la saga de la reconnaissance de la maison de la culture comme PME.
Oui, c'est pas...
La question était facile. Est-ce que la maison de la culture, c'est une PME?
Sa réponse a été oui.
Selon les critères de la Chambre de commerce.
Oui. Mais je ne l'ai jamais vu à vendre, moi, la maison de la culture.
Ils ne sont jamais allés à la banque pour aller chercher quelque chose. C'est drôle. Ils ne payent pas le salaire de l'EDG, puis ils payent zéro taxe municipale.
Payent-tu le chauffage?
Je ne pense pas.
Fait, ça paraît, là.
Bien sûr que ce n'est pas une PME. Là, la Chambre a de la folle un peu avec ça. Ils vont changer peut-être les critères, mais la raison pourquoi je te parle de PME, c'est parce que, justement, c'est ton premier sujet, la pénurie de main-d'œuvre.
Oui, il y a des statistiques qui sont sorties de la part de la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes. Au Canada, 430 000 postes sont vacants depuis au moins 4 mois. Tu parles pas, là, une semaine, deux semaines, là... Le temps de former la personne est moins de 1 000, pas ça, pas en tout, là, depuis 4 mois.
Ah oui.
Donc, ça commence à se cristalliser. Et dans le cas du Québec, ben c'est encore pire. On parle de 117 000. Fait que fais le calcul, là, c'est à peu près 26-27 % de l'ensemble du Canada, alors que la population québécoise n'est pas de ce pourcentage-là. Moi, ce qui m'inquiète, Rock, puis j'en ai déjà parlé, à moyen-long terme, c'est que les entreprises, à un moment donné, vont trouver une solution pour la pénurie de la main-d'œuvre. On se gratte la tête, puis à un moment donné, whoop! OK, il y a une machine à 500 000 qu'il faut qu'on achète. Mais cette machine-là, elle remplace 3 personnes à 45 000. Mais la machine, elle se paye, il y a le temps de le dire. Là. Tu vas à la banque, tu fais cette démonstration-là, évidemment, c'est facile. Là. Tu sais, quand tu vas à la banque, c'est un peu plus compliqué. Là. Mais tu sais, tu vas à la banque ou tu vas te chercher des financiers ou peut-être même des partenaires dans l'entreprise, des investisseurs silencieux ou des investisseurs présents. Puis tu dis, écoute, chauffe 3 fois 45 000 par année, ça me donne 135 000, puis elle me coûte 500 000 la machine. 3 ans et quelques, c'est payé. Mais lorsqu'il n'y aura plus de pénurie de la main-d'œuvre, ben, cette compagnie-là ne prendra pas la machine et n'appellera pas Bérard pour faire du recyclage. Là.
Elle ne réembauchera pas.
On va continuer. Et là, j'ai l'impression qu'on va piquer du nez comme on avait piqué du nez pour différentes raisons. Mais rappelle-toi, dans les années 70, fin 60, plein emploi au Québec, les baby boomers entraient massivement sur le marché du travail. Bon, il y a eu d'autres conjonctures, mais l'industrie du textile a planté, notamment dans plusieurs régions, Valleyfield, La Chute, Saint-Jérôme, Magog aussi. Magog, c'était impressionnant comment le textile était un moteur économique important et tout ça, ça a planté. Mélange ça, la hausse des taux d'intérêt, c'est sûr là, tu sais, que c'est une soupe. Il n'y a pas juste un ingrédient à la soupe. Et bang, on est tombé possiblement dans la pire crise économique depuis celle de 1929.
Et c'était à prévoir. Hein? On a vu beaucoup de lumière orange il y a quelques années, nous disant, on va frapper au Québec une situation de pénurie de main-d'œuvre.
Ça datait des années 2000, Rock.
Tout à fait. Puis, je veux dire, on parle beaucoup d'immigration. J'en parlais avec Louis tantôt. C'est une solution, mais ce n'est pas que la solution. Non. Puis, ce n'est pas instantané non plus. Là.
Pour nous, je dis pour nous parce qu'on est rendu... aux 2/3 de la carrière de fait, là, c'est pas un problème. Mais pour les jeunes qui sont sur le marché du travail présentement, qui rentrent à 17 ans, « Yes, sir, lâche l'école » ou « j'ai pas de diplôme reconnu, pas beaucoup de connaissances, je m'en vais sur le marché du travail, qu'est-ce qui va se passer? » Mais que ces personnes-là, là, ça va bien à 20 ans, 22 ans, mais que ces personnes-là aient 38, 40, en fleur de l'âge, eh bien, c'est là que c'est moi, le temps maintenant.
J'appelle ça, moi, l'attrait du pick-up.
Oui.
Tu sais, t'es au cégep, tu dis, ah, c'est plate, tes cours de philo. Je serais capable de travailler à l'usine, je serais capable de travailler n'importe où, je suis capable de m'acheter un beau F-150. Écoute, je suis un petit peu plus libre, j'ai un petit peu plus d'argent, je vais encore chez mes parents, puis bon, je vais prendre un appart avec ma blonde. Tu sais, l'attrait du pick-up, puis première chose qu'on sait, ben finalement, t'es un peu emprisonné, menotté dans une genre de carrière qui a certaines limites parce que la scolarisation n'est pas là.
Ben, les employés du textile, c'était ça au tournant des 70-80. Des gens qui avaient travaillé à l'usine depuis nombre d'années, des usines qui existaient depuis parfois même le 19e siècle. Bang, dans les années 70, ça a fermé d'un coup sec pour différentes raisons. Et puis, les gens se sont retrouvés le bec à l'eau, malheureusement.
Mathieu, tu veux me parler du marché immobilier de Montréal?
Oui, je veux te parler de deux sujets. Un des données qui sont sorties aujourd'hui concernant Montréal, c'est un marché de vendeurs. Rock, il y a une propriété sur neuf à Montréal qui fait l'objet de surenchères. Tu t'en vas peu importe où, là, dans Montréal-Nord, dans Outremont, dans Hunsic, tu vas t'en aller du côté de Verdun, Villemar. Et tu mets ta maison en vente à 250 000 $. Dans certains cas, c'est pas mal plus. Et a fini à 260. C'est incroyable. Et l'autre nouvelle aussi, j'ai obtenu encore une fois une étude qui a été réalisée par la firme JLR.ca à partir du registre foncier et surtout de toutes les transactions réalisées du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2018. Donc, c'est jusqu'à tout récemment. C'est presque sur une période de 4 ans. Et ce qu'on a dit, c'est un bungalow, une maison unifamiliale, qui se situe tout près d'une gare. Qu'est-ce que ça vaut? On a évalué deux paramètres. Le premier, c'est de 0 à 1500 mètres, de 0 à 1,5 km, et de 1,5 km à 7 km. Écoute, dans le cas de Ville-Mont-Royal, tu vas me dire que le train est implanté là depuis nombre d'années. Tu sais qu'on a percé le Mont-Royal, je pense, dans les années 20 ou dans les années 30, là, je ne sais plus trop. Ville-Mont-Royal, ben, l'écart entre 0 et 1500 mètres et 1500 mètres et à 7000 est de 98%. 1 120 000 pour 605 000. Tu t'en vas dans d'autres secteurs, là. Prends par exemple...
pour la même maison, là. Oui. Tu sais, dans le fond, on compare pas avec pomme.
On compare le même type de maison. Saint-Lambert, qui est de l'autre côté du Montréal, à peu près de Montréal, à peu près en face du circuit Gilles-Villeneuve, pour situer les gens, ben, tu as à 517 500 contre 325 000.
Alors, 500, c'est plus près du...
C'est plus du près train. De la gare en question. Écoute, des exemples comme ça, il y en a plein. C'est très impressionnant de voir ça et impressionnant surtout de constater que, dans certains cas, Montréal est loin de s'essouffler. Et avec l'annonce qu'on a entendue du côté des hautes technologies, là, on est dans un marché vraiment florissant à Montréal. Ouais.
Deux choses. Ben, premièrement, je pense pas que c'est une grande surprise que quand on est près d'un axe de transport... Non. Majeur.
Mais 98 % ça commence à faire de l'argent.
Oui, mais ça sera... Regarde le Rapibus. On peut avoir une surenchère si tu es à côté du Rapibus. Si jamais on arrive avec le train à Elmer, ça sera la même chose aussi. Il y aura une valeur ajoutée à cela.
Mais tu as le temps de refaire ta cuisine deux fois.
Tout à fait.
Pour les gens d'Elmer.
Ça, c'est un. Mais deux, j'ai fait cette entrevue il y a quelques jours, quelques semaines, avec le porte-parole de la Ville de Montréal sur le programme d'incitation à acheter sur l'île. Mm-hmm. Je ne sais pas si tu te souviens de cela.
Alors.
J'ai réalisé une entrevue. Évidemment, je faisais des comparables intellectuellement. Là, je faisais un comparable avec les programmes d'incitation au centre-ville de Gatineau, où est-ce qu'on donne des crédits de taxes à des condos de 2 millions. Là, on subventionne les riches à Gatineau.
On avait aussi mis sur pied un programme pour amener les familles dans des unifamiliales. Je pense qu'il y avait eu une réponse il y a quelques années.
Alors, Montréal a un programme très agressif. Variable également. Ça s'adresse non seulement aux premiers acheteurs, c'est vrai, mais premiers acheteurs, venez sur l'île, moi, vous payez quelque chose. C'est un chèque qu'on donnait. Puis aussi, des deuxièmes acheteurs qui décidaient de s'en venir sur l'île, on remboursait les droits de mutation. Et c'est un programme excessivement intéressant, mais il y avait des limites. C'est sûr que tu ne te classifies pas si tu as une maison de 2 millions, parce que l'objectif, c'est pas ça.
Ouais.
Alors, on met des plafonds, mais on attire du monde. C'est un programme excessivement généreux, mais couru également. Puis nous autres, à Gatineau, on fait le choix inverse. Nous autres, au lieu de favoriser le petit, puis la famille qui s'en vient au centre-ville, nous autres, on donne des subventions de taxes municipales pendant 7 ans à des condos de 2 millions de dollars.
Qui sont loués.
Souvent. Voilà.
Et pendant ce temps-là, Kentley grossit.
Bien sûr, parce que c'est pas dans un condo de 2 millions que tu élèves un petit. Hein, n'est-ce
on
pas?
S'entend là-dessus.
Mettrais-tu Top Gun avec tes deux enfants dans un condo de 2 millions, Mathieu?
Non, même pas de 400 000, même pas de 300 000.
Non, mais même je te le donne, là. Pas sûr que tu élèves des enfants au 22e.
Non.
Bon.
On s'entend là-dessus.
Tu veux me parler de Thomson Reuters?
Oui, Thomson Reuters qui va supprimer.
Tu vas expliquer c'est quoi?
Ben, Thomson Reuters, c'est une entreprise, un groupe de presse, un groupe d'information, et qui est, écoute, Reuters. À l'époque, Rock, où on n'avait pas toutes les satellites et les communications par Internet, Reuters avait un fil de presse qui envoyait des images internationales. Et c'était toutes les entreprises de télé, par exemple, qui pouvaient vendre à Reuters. Exemple, TVA, Radio-Canada, peu importe, vendaient à Reuters, à Reuters, en fait. Et par la suite, ben, il y avait un feed qui était envoyé, exemple, à 4 heures du matin, 5 heures du matin, 6 heures du matin. Et puis, on pouvait recevoir des images comme ça d'un attentat en quelque part ou d'une situation. Ça peut être un feature. Et veut, veut pas, ce genre de groupe de presse-là a perdu des plumes au cours des dernières années. Et là, écoute, on a l'intention de fermer 52 de ces bureaux à travers le monde d'ici 2020. On en a 185, on veut passer à 133. Reuters est présent ici au Canada, là. Il y a des journalistes de Reuters qui sont à Toronto, qui sont à Montréal. Et là, ce qu'on veut faire, c'est supprimer 12% de la main-d'œuvre mondiale. Donc, c'est dire que...
Ça change, là.
Ça, on parle d'un essoufflement de ce côté-là.
Mm-hmm. Tu veux me parler de...
Et regardez pas vos placements aujourd'hui, parce que c'est une très, très, très mauvaise journée pour la bourse. Je regarde là en direct, là, on parle d'une baisse là, de 2,5% aujourd'hui.
Bon, qu'est-ce que Donald a fait?
Ben, Donald n'a pas nécessairement fait grand-chose, là.
Parce que quand Donald éternue, la bourse prend le rhume.
Ah, ben ça, on s'entend là-dessus. Mais... Regarde, aujourd'hui, il était question, notamment aux États-Unis, et c'est pas Donald Trump qui a dit ça, de continuer la hausse des taux d'intérêt, continuer à soutenir cette hausse. Les courtiers du côté de Wall Street sont nerveux, et dans le cas de cette journée-là, bon, c'est pas un crash boursier, là, on s'entend là-dessus, on tourne autour du 25 000 points. On a déjà descendu plus bas il y a quelques mois, mais je te rappelle qu'on était à 26 000, 27 000 il n'y a pas plus tard que 2 ou 3 mois.
Oui, mais c'est des pertes théoriques. Comme tu as dit, si tu ne les regardes pas et tu ne vends pas aujourd'hui,
non,
tu seras pas affecté par ça.
Mais on peut dire que l'année 2018...
Montagne russe.
Une année difficile. Ça a commencé à partir du 27-28 janvier. Ça a planté solide. Au printemps, ça a remonté en fou. Facebook avait remonté incroyable. Google avait augmenté. Plusieurs entreprises, les banques, tu sais, qu'on appelle des blue chips, là, des placements garantis. Tout ce que tu souhaites quand tu es dans les banques, ben, tu vas faire un 2-3 % par année, 4 % peut-être, et tu souhaites que tes actions split se divisent en 2 ou en 3. Ben, à un moment donné, ça va remonter, puis tu vas te retrouver avec plus d'actions. Ça, c'est intéressant dans le cas des banques, mais même les banques ont planté. Donc, moi, j'ai hâte de voir le bilan honnête de la présente année. Je ne pense pas qu'il soit bien positif.
Mmh. Excellent. D'autres choses?
Ça, c'est tout pour l'instant.
1,3 million pour une piscine extérieure, Mathieu?
Ben, je te la laisse.
Trouves-tu ça cher?
Ben, je la laisse. C'est cher. Je ne sais pas ce qu'il faut qu'il fasse. Est-ce qu'il faut qu'il recreuse pour aller faire toute la tuyauterie pour s'en aller vers l'égout? Tu sais, quand la piscine a été faite, est-ce que c'était les mêmes normes à l'époque? Est-ce que, mais qu'on tire le bouchon dans le fond de la piscine, au sens figuré, bien entendu, si c'est ça les nouvelles normes, est-ce qu'on va envoyer ça directement dans l'égout? Tu sais, la tuyauterie, ça coûte cher. Mm-hmm. Et une piscine creusée, tu sais, c'est pas comme tu fais venir une piscine creusée dans ta cour avec ton gros moule en plastique, là.
D'accord.
Puis en plus, il faut que tu l'aménages alentour.
Ah ouais.
Fasse une slab de béton, tu sais, ça va vite 1,3, là. Mm-hmm. Puis les entreprises, quand ils travaillent pour le gouvernement, ben.
Je comprends pas.
Ben, ça charge toujours un petit peu plus cher que dans
donc,
le privé.
Voyons donc, on va aller en soumission. Voyons, ils se parlent pas, les gars, voyons donc. Personne qui se parle.
Ben, ils se sont déjà beaucoup parlé.
Oui, c'est réglé, ça.
Jusqu'à preuve du contraire.
Il n'y a pas de monsieur trottoir ici, je peux pas croire.
Ben non, ça, c'était à Terrebonne, le
dans
monsieur
Montréal,
trottoir.
3 %
Non, c'était Terrebonne ou Mascouche. Ah non, tu parles de Bernard Trépanier.
Oui.
Parce que monsieur trottoir, ça, c'était...
C'était pas monsieur
trottoir.
C'était
Tony à Curceau.
Ah.
Tony à Curceau qui avait pogné un contrat de déneigement de Bornefontaine ou je ne sais plus trop quoi, là, 500-600$ à Mascouche. Non, dans le cas de M. Trépanier, on sait, il est décédé il y a quelques mois. Et parenthèse, je suis en train de faire un dossier aussi dans le journal de Saint-Jérôme. L'UPAC est vraiment là-bas et j'entends parler de Bernard Trépanier comme tu n'as pas idée, Rock.
Ah oui, hein?
Écoute, il y avait les clés populaire. De l'hôtel de ville.
Ah?
Il rentrait dans
de
le bureau.
De Saint-Jérôme?
Oh, oui. Il rentrait dans le bureau du maire. Le maire avait fait installer une serrure, puis il barrait ça, puis il y avait des discussions. Sa secrétaire ne pouvait même pas rentrer.
D'accord.
Ça te donne-tu
il
une
barrait
idée?
La porte par en dedans.
Oui, par en dedans.
OK.
Pour s'assurer que personne rentre.
Ah. Très bien. Très intéressant. Merci beaucoup.
Oui.
OK. Courte pause. Et au retour, on va aller rejoindre Martin McGuire parce que là, on commence une semaine importante en matière de hockey. Mais premièrement, on apprend que Seattle arrive en ville dans la Ligue nationale, 32e équipe dans l'Ouest. Deuxièmement, Montréal joue à domicile ce soir contre les Sénateurs et jeudi, c'est l'inverse. Ottawa accueille Montréal. J'en parle avec Martin tout de suite après ceci.